Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Quelles sont les actus DevOps et Cloud en ce mois de septembre 2021? C'est ce qu'on va voir dans ce podcast.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bonjour à toi cher compagnon et bienvenue dans Actu DevOps, cette émission presque mensuelle où on déblatère des actualités du cloud ou du DevOps. Et aujourd'hui on a un programme chargé et je t'encourage à rester jusqu'à la fin parce qu'on va parler de Microsoft Azure et de plein de problèmes qu'ils ont eus. Je te rappelle aussi que ce podcast est partagé en Creative Commons, donc en licence libre. Tu peux le découper, prendre des bouts, le diffuser sous condition que tu cites évidemment la source et que tu nous notifies soit sur le forum, soit en commentaire de YouTube, ou alors tu peux m'envoyer un petit message et je ferai le travail. Et avec moi ce soir, j'ai Nicolas. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir à tous.
J'ai aussi Mathieu. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Et enfin, René. Bonsoir, René.
Bonsoir, pardon.
Et exceptionnellement, nous sommes tous en région Rhône-Alpes, ce qui est quand même notable. Donc ce sera un podcast rhône-alpin ce soir, enfin plutôt aujourd'hui. Nous, on est le soir, mais vous, quand vous écoutez le podcast, c'est sûrement le matin. Et on va commencer tout de suite, c'est moi qui vais me coller. Je vais vous parler de Docker. Vous savez que j'adore Docker, plutôt j'adore les conteneurs, et Docker devient payant. Alors, pas tout à fait, partez pas en courant, ne cherchez pas tout de suite un remplaçant, on va expliquer un peu les choses. En fait, le changement de tarif de Docker, il s'applique sur Docker Desktop. Mais Docker Desktop, c'est quoi ? Parce qu'il convient peut-être de dire ce que c'est. Alors ce truc-là, c'est en fait une méthode d'installation facile pour Mac ou Windows. Alors pour rappel, Docker, c'est un gestionnaire de conteneurs qui permet de partager en fait le noyau Linux avec les processus qui tournent à l'intérieur du conteneur. Donc c'est pas une machine virtuelle, et donc évidemment c'est avant tout un outil Linux. Mais les pauvres utilisateurs de Mac ou de Windows étaient privés de ce jouet. C'est donc pour ça qu'est né Docker Desktop. Donc Docker Desktop va en fait pouvoir installer Docker facilement sous Windows et sous Mac. Enfin, facilement, façon de parler. Et donc Docker Desktop devient payant. Aujourd'hui, pour les entreprises qui ont plus de 250 salariés et qui font plus de 10 millions de dollars de chiffre d'affaires. Bon, on peut parler quand même de grosses boîtes à ce niveau-là. Les tarifs commencent à partir de 5 dollars par mois. Bon, je vous laisserai aller lire l'article de blog qui est en commentaire pour aller voir le détail. Pour le moment, Docker CLI, donc le client Docker, Docker Compose, Docker Build Kit et Docker Engine qui fait tourner finalement les conteneurs sur votre machine ou vos serveurs, ça reste gratuit. Si tant est, vous soyez sous Linux, évidemment. Docker estime finalement à 50% des utilisateurs de Docker Desktop qui seront admissibles à l'usage personnel. L'usage personnel, en fait, c'est la version gratuite de Docker. Ça veut dire qu'en gros, ils estiment que 51% de leurs utilisateurs de Desktop ne seront pas impactés par ce changement de tarif. Et ils estiment qu'environ 10% des utilisateurs existants seront touchés. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a un manque de 39% là-dedans, mais bon, bref. Je vous mets les liens des articles qui m'ont servi de source en description. Et aujourd'hui, Docker nous annonce qu'il y a 5 millions d'utilisateurs mensuels de cet outil. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, cette petite news ? Est-ce que déjà vous utilisez Docker Desktop ?
Alors, pour ma part, oui, puisque je suis sur Mac, donc j'ai bien Docker Desktop qui tourne sur ma machine. Mais en fait, dans mon entreprise, on paye déjà un accès au Docker Hub depuis quelques temps, puisque ça nous permettait d'avoir accès à des repositories privées. Donc pour nous, je pense pas que ça va changer énormément. Il va falloir que je regarde un petit peu le pricing de plus près, mais je pense que ça va pas changer énormément. Et je trouve que c'est une bonne chose que Docker commence à trouver un modèle économique Et pour avoir étudié un petit peu les tarifs, je trouve que c'est plutôt bien foutu.
Oui, non, c'était juste pour dire que oui, nous on l'utilise et on est typiquement confronté au problème dans mon entreprise. Il y a beaucoup d'utilisateurs, de développeurs qui utilisent Windows. C'est un peu la plateforme de référence. Et du coup, ben voilà, se pose la question de qui l'utilise et est-ce qu'on va vers la solution payante ou est-ce qu'on essaye de trouver une alternative. Voilà.
De mon côté, je ne suis pas impacté, je suis sur Linux. Je pense que je ne pourrais pas travailler professionnellement sans i3, Emacs et ma distrib Linux dans tous les cas. Mais je comprends tout à fait Docker. Moi, ça ne me choque pas parce que, comme le disait Nicolas, ils ont aussi besoin de faire de l'argent, de monétiser leurs produits. Et d'ailleurs, je paye, même pour mon usage personnel, là, je parle d'un abonnement payant au Docker Hub que j'utilise pour tous mes projets et j'ai aussi des dépôts privés comme ça. Parce que je pense que Docker, pour tout ce qu'ils ont apporté, on va dire, à notre métier, finalement, à nos métiers, mérite quand même de gagner de l'argent. Donc moi, c'est quelque chose qui ne me choque pas, que ce soit payant, et tant mieux pour eux si ça marche, même si moi, je sais que jamais je retravaillerai sur Windows, probablement. Ou sur Mac, d'ailleurs.
Alors moi, ça m'est arrivé d'installer Docker Desktop. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une petite histoire, quand même. Donc moi, je travaille sous Linux, j'ai une station de travail Linux, et j'ai un client qui a un VPN Citrix qui ne fonctionne que sous Windows. Enfin, plus exactement, la double authentification ne fonctionne que sous Windows, parce qu'il y a un client Linux Citrix, mais sans double authentification. Super. Donc je me dis, ok, j'installe une VM. Et là, se pose la question de, ok, est-ce que en fait, pour packager les machines, est-ce que je peux le faire avec ma VM ? Parce qu'on package parfois des conteneurs et je les package sous Windows pour tester pour les autres. Donc là, j'essaie d'installer Docker Desktop sur une VM. Et ben, patatrac, j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Donc je me suis dit, ok, bon, on va arrêter, ça marche pas. Ou alors je suis trop mauvais. Parce que bon, c'est vrai que l'installer sous Linux, c'est quand même hyper facile. Pour le coup, moi aussi je suis de votre avis, c'est quand même pas mal que Docker arrive à trouver un business model, surtout que ça impacte vraiment. Pour le coup, la station utilisateur des populations Windows et Mac qui ont déjà l'habitude de payer des licences pour pas mal de choses. Et donc, je me dis, pour eux, ça va peut-être pas forcément faire un grand changement. Et j'imagine, du coup, en vous écoutant, que les fameux 39% qui restent, c'est des gens, en fait, qui sont déjà abonnés au Docker Hub. Donc, finalement, ces 10% d'utilisateurs existants, c'est soit ils n'avaient pas de compte sur le Docker Hub et ils vont être impactés. Donc, ce n'est pas, finalement, grand monde. Alors, 10% de 5 millions d'utilisateurs, ça commence à faire, mais bon, voilà.
Ce que je voulais rajouter, c'est qu'ils ont revendu une partie de leurs activités à Mirantis, je crois. C'était la partie enterprise où ils auraient pu trouver leur business model là-dessus. Mais du coup, ils ont préféré se concentrer sur la partie desktop. Et finalement, là, c'est la concrétisation des réflexions qu'ils ont eues à l'époque où ils se sont séparés de la partie entreprise pour se concentrer sur la partie desktop. Et en réalité, ils font payer la partie desktop, mais pour ceux qui utilisaient déjà un Docker Hub payant, ils ont accès gratuitement au Docker desktop qui est inclus dans la licence qu'ils avaient déjà avant.
Exactement, ils ont repensé, je crois, leur pricing, et de toute façon, vous aurez le lien en description. Et moi, ça me fait penser aux gens qui, finalement, utilisent d'autres registres. Est-ce qu'ils ne vont pas passer chez Docker pour pouvoir profiter de Docker Desktop aussi? Je ne sais pas. C'est des questions à se poser. En tout cas, si ça peut permettre à Docker de trouver son business model et de continuer à évoluer, parce qu'on sait que l'activité de Docker n'est pas forcément... Ils n'ont pas vraiment trouvé leur gestion de chiffre d'affaires, contrairement à d'autres boîtes, et ça, c'est plutôt pas mal.
La solution, elle est quand même sympa. En plus, ça s'installe facilement. Forcément, il y a quand même des développeurs à payer derrière, donc c'est normal. Après, voilà, je suis d'accord avec vous. La somme demandée, elle n'est pas non plus démentielle, surtout pour des sociétés assez conséquentes. Donc, voilà, ouais, je pense que si ça peut permettre de continuer à bénéficier de cette solution, ça, c'est plutôt bien.
Et j'allais compléter aussi sur le fait que, au-delà de d'avoir un accès au Docker Hub et du desktop qui était inclus dans la licence, il y a dans la version pro, donc c'est l'entrée de gamme pour une personne à 5 $ par mois, on a aussi 300 scans de vulnérabilité incluses. Et quand on commence à vouloir faire des choses sérieuses avec du Docker, c'est pour moi c'est pas un aspect à négliger parce que c'est quelque chose qui va améliorer votre sécurité au global. Pour 5 $ par mois, pouvoir scanner toutes vos images Docker, je trouve que ça vaut largement les 5 $ par mois. Et toi,
Ouais,
Mathieu, qu'est-ce
et
que t'en penses?
bah moi je suis d'accord avec ça et j'avais pas du tout pensé, c'est vrai, au fait que bah ça devient beaucoup plus intéressant de passer sur le Docker Hub, finalement, en version payante, si on a le reste inclus, notamment Docker Desktop. Et en effet, c'est assez intéressant comme offre, quoi, finalement, parce qu'on se retrouve avec une offre globale, avec beaucoup, beaucoup de produits pour pas cher, hein. C'est vrai que c'est vraiment pas cher. Et ça devient vraiment intéressant si en effet le Docker Desktop vient avec le Docker Hub.
Ouais, et puis pour avoir mis en place dans des CI des scans de sécurité d'images de conteneurs, ça se fait, bon, c'est pas compliqué, hein, mais ça prend un peu plus de temps que 5 $ par mois, quoi. C'est ça que je veux dire. Parce qu'en un an, 5 $, le prix d'un freelance, c'est quand même fou. Bon, on va passer au sujet suivant. Nicolas va nous parler de Scalway.
Oui, alors il y a quelques semaines, on a eu une grosse annonce de la part de Scaleway. Je ne sais pas à quel point elle a fait du bruit, mais en tout cas, je pense que la plupart de vous l'ont vu passer. C'est le fait qu'il y ait trois AZ. Donc, on va redéfinir ce que c'est qu'une AZ. En gros, c'est un data center qui est suffisamment proche d'un autre et qui est totalement autonome, donc que ça soit en énergie, en climatisation, accès Internet, etc. En gros, s'il y a la moindre panne dans un des data centers, un autre data center qui est dans une autre AZ, ne sera pas du tout impacté par cette panne. Alors bon, bien sûr, ça reste un petit peu de la théorie, parce que s'il y a un tremblement de terre dans une zone géographique, on risque d'avoir plusieurs AZ qui sont impactés, mais sur des incidents relativement, entre guillemets, simples, un incendie, une inondation, des choses comme ça, la probabilité que ça arrive dans toutes les zones en même temps est assez faible. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir trois zones? C'est que la plupart des outils suffisamment sérieux pour faire de la haute disponibilité vont vous demander d'avoir un quorum au moment où on va faire un vote. Et la seule solution pour pouvoir faire ça, c'est d'avoir un nombre impair de votants. Donc avec trois AZ, on peut commencer avec trois votants. Donc après, vous pouvez en mettre 5, 7 et ainsi de suite, mais le fait d'avoir 3 AZ vous permet d'avoir un nombre impair de votants. Et pourquoi c'est important? C'est que si vous avez que 2 data centers, vous allez avoir un déséquilibre entre les 2 data centers et vous risquez, le truc qui est redouté par pas mal de gens qui font de la prod, c'est le speed brain. Donc vous avez votre infrastructure qui va se couper en deux et les deux vont prendre la gestion de l'écriture en même temps. Et alors là, c'est le début des ennuis. Et donc, il y a beaucoup de protocoles qui existent, notamment le protocole Raft, qui vous explique bien tout ça et qui vous permet d'avoir un système de haute disponibilité. Et pour ça, il faut absolument 3 AZ. Et donc, le fait que Scaleway ait rajouté une troisième zone, ça nous permet enfin d'avoir un data center en France sur un cloud provider. On va définir de majeur hein, pour les Français. Et c'est pas un data center en France, hein, c'est un data center opéré par un acteur français. Donc pour moi, c'est vraiment une super bonne nouvelle. Et le petit truc marrant en plus, c'est que le troisième data center qu'ils ont ouvert, ils ont racheté un ancien blockhouse, un abri anti-atomique. Donc en plus, si vous déployez dans trois zones, vous pourrez dire à vos clients que vous avez une des zones qui peut résister à une attaque nucléaire. Donc c'est la dernière fois que j'ai parlé d'analyse de risque, vous pourrez réécouter l'épisode. J'avais dit qu'en cas d'attaque nucléaire, je m'en foutais un petit peu parce que je serais plus là pour gérer les problèmes, mais vous pourrez dire à vos clients que vous avez adressé le problème en mettant une partie de votre prod dans un abri anti-atomique. Et toi, Mathieu, t'en penses quoi de cette bonne nouvelle?
Bah, comme toi, je suis assez enthousiaste. Je pense que c'est au-delà des produits cloud, c'est vraiment la force de Scaleway, le fait de maîtriser son infrastructure de A à Z, finalement. Donc c'est bien de voir un acteur français avec ses 3 AZ, parce que c'est vrai que c'est ce qui pêche un peu chez beaucoup de cloud providers en Europe. Hein. C'est pas que les produits, c'est aussi ce genre de choses, des availability zones. Comme tu l'as dit, Nicolas, il y a plein d'outils qui vont bénéficier de ça. Mais moi, je pense notamment à des outils comme Cassandra ou des choses comme ça, où on peut mettre des réplications assez intelligentes de cette manière, hein, pour que ça se réplique entre les AZ. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Et comme tu le dis, le bunker nucléaire, c'est toujours fun. En Suisse, il y avait Deltalis qui était comme ça également, comme data center, qui était sous une montagne. On était dedans à une époque. Et c'est toujours impressionnant à visiter. Donc, je pense que rien que pour ça, si je pouvais acheter des serveurs chez Scaleway, rien que pour visiter le data center et l'abri anti-atomique, ça m'intéresserait, quoi. voilà. Donc, je sais pas si Christophe, peut-être, tu veux rajouter quelque chose?
Oui, alors déjà, il est possible de visiter cet abri anti-atomique puisque pour les journées du patrimoine, Scaleway va ouvrir justement le DC5, qui est celui-là, il me semble. Le DC5, c'est le data center écologique. C'est pas le même. Par contre, ouais, je vais ajouter quelque chose parce que je l'ai traité dans ma dernière trouvaille du vendredi, celle du 10 septembre que j'ai publiée sur LinkedIn. Et en fait, outre le fait qu'il y a maintenant 3 AZ chez Scaleway, qui sont vraiment des AZ puisque c'est des data centers qui sont séparés géographiquement, même s'ils sont tous sur Paris, à divers endroits de Paris, il y a en fait aussi une. Dans l'article qui est en lien, puisque je l'ai lu aussi, il y a l'explication de ce que veut faire Scaleway sur les futures availability zones en Europe. Donc je vous encourage à aller voir ça parce que c'est très bien. Et ils pensent justement à long terme leur infrastructure au niveau européen. Et ce bunker, en fait, historiquement, il héberge C14, qui est l'offre de stockage à froid longue durée de chez Scaleway, qui en théorie, on peut laisser ses archives pendant 10 ans. En théorie, je sais, en pratique, j'ai pas testé. Donc voilà. Et par contre, attention, parce que déjà entre le premier DC parisien et le deuxième DC, les prix des VM changent. Mais alors quand vous allez sur le DC qui est dans le data center subatomique, on va l'appeler, et ben là les prix flambent. Parce que évidemment, il y a plein de choses qui font que les prix des VM changent. Donc ce ne sera pas kiff-kiff, il va falloir bien, bien travailler vos prix quand vous utilisez les 3 AZ. Et alors René, toi, qu'est-ce que tu en penses ?
Ouais, je pense que vous avez tout dit, j'ai pas grand chose à ajouter. Moi je trouve que c'est une super nouvelle que j'avais pas forcément vue par ailleurs. Je trouve que c'est génial.
Eh ben écoute, on va te laisser la parole. Tu vas nous parler justement d'un anniversaire, je crois.
Oui, ben il fallait quand même en parler un petit peu. Sinon, c'est quand même quelque chose d'assez majeur. Donc, le 25 août 1991, en fait, Linus Torvalds nous annonçait qu'il avait créé un tout petit projet, quelque chose de pas aussi gros et professionnel que GNU. Et c'est les 30 ans de Linux. Et donc voilà, c'est pas forcément grand chose à dire de plus, mais voilà, je pense que c'était l'idée de un petit peu le rappeler, que cet OS parti d'un projet, on va dire d'un hobby, est devenu quelque chose de vraiment majeur, utilisé dans du petit chip embarqué jusqu'au plus gros supercalculateur. Et pour moi, ça montre vraiment la force de l'open source et des communautés. Je voulais juste faire un petit rappel à cet anniversaire et puis ben juste vous poser la question de quand est-ce que vous avez découvert Linux et est-ce que vous aviez anticipé un tel succès quand vous avez découvert, surtout pour les plus anciens.
Je peux commencer en étant, je pense que je suis le plus jeune, comme ça vous allez rigoler. Moi j'ai connu Linux quand j'étais au collège, donc c'était il y a une quinzaine d'années environ. C'était déjà populaire en fait, donc qu'est-ce qui m'a, on va dire, le succès était déjà là, je pense, il y a 15 ans. Peut-être pas autant qu'aujourd'hui, mais il y a peut-être encore plus de concurrence, mais on va dire c'était déjà là, et j'avais installé Ubuntu sur l'ordinateur familial, ce qui était assez stressant, parce qu'on n'avait qu'un ordinateur, bien sûr, pour toute la famille, et je me disais, mais si je plante le truc, qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai fait comme ça, et je me dis, mais j'espère que ça va passer, parce que si plus personne peut aller sur l'ordinateur, ça va poser rapidement problème, hein, pour retrouver, réinstaller Windows, etc. Enfin bref, on était au fin fond de la campagne. Mais ça a marché. Et c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai utilisé de plus en plus, j'ai commencé à coder ensuite dessus avec quelques temps après, mais j'étais joueur, je jouais beaucoup à l'époque, donc ça m'empêchait d'utiliser Linux à plein temps, et j'ai sauté le pas pendant mes études supérieures, donc il y a une dizaine d'années, je dirais 8-10 ans, où je suis passé à Linux, j'ai que du Linux depuis ce temps-là, je dirais 8 ou 9 ans, j'ai que du Linux, j'ai rien eu d'autre depuis. Et j'en suis très content. Donc je ne sais pas si quelqu'un veut raconter, peut-être Nicolas, ton histoire avec Linux.
Alors là, du coup, on va faire un bond dans le temps, parce que moi aussi, c'était au collège, mais du coup, c'était plus en 93-95. C'était une Slackware. J'ai essayé de regarder à l'instant dans l'historique, ça correspond à peu près à cette date-là. Et en fait, c'était un CD dans un magazine sur lequel il y avait les 95 disquettes. Donc, je me suis mis à chercher 95 disquettes pour pouvoir les mettre dessus. Et j'ai été confronté très rapidement à la ligne de commande, puisque il y avait X-Free, je sais plus quoi, qui permettait d'avoir une interface graphique. Mais ma carte vidéo n'avait pas assez de mémoire. Donc, je suis resté en ligne de commande pendant un bon moment. Et j'ai très rapidement appris à faire de la ligne de commande, et c'est grâce à ça que j'ai commencé à faire du réseau. Et en commençant à faire du réseau au collège dans les années 95, quand j'ai commencé à travailler en entreprise en 2001, j'avais forcément pas mal d'avance sur pas mal de monde. Et effectivement, c'est ça m'a initié à tout ce qui était Unix, et à l'époque, je passais pour un bricolo qui faisait du Linux dans son garage. Donc, rétrospectivement, c'est assez marrant d'avoir commencé à bricoler dans mon garage, et que finalement, maintenant, ça soit le système majoritairement utilisé en entreprise. Je ne sais pas si toi, René, tu as eu une expérience à peu près similaire avec Linux.
Oui, ouais, en fait, j'ai commencé alors pas en disquette, j'ai commencé un peu plus tard. Je m'intéressais déjà, je suivais un petit peu. Je l'ai découvert grâce à quelqu'un qui travaillait à l'hôpital et qui a commencé à m'en parler. Je me suis documenté. Je pense que j'ai démarré, alors c'est pas tout jeune, pareil, ça doit être, je dirais 96 par là, 95, 96, peut-être 97, avec Red Hat Infomagique, Red Hat 4 à l'époque, hein, pas Enterprise Servers 4, Red Hat 4, la vraie, 4.0 ou 4.1. Et ouais, ça a été assez difficile au début, il y avait pas mal de choses, enfin beaucoup de choses qu'il fallait configurer, notamment le serveur X, etc. Mais voilà, je me suis accroché, et puis moi, ça me passionnait un petit peu de travailler, de bricoler un petit peu, de voir comment c'était fait. Ce qui m'a vraiment séduit, c'est vraiment les possibilités d'automatisation que ça a apporté, que rien n'était caché au niveau des logs. Il y avait aussi les sources des logiciels, donc si on avait vraiment la volonté de savoir comment quelque chose de connaître comment ça fonctionnait, on pouvait aller voir. La limite, c'était en fait notre motivation et la connaissance. Et puis, je trouvais que les outils étaient souvent très puissants, même si parfois la forme était peut-être pas la plus... et c'est peut-être toujours vrai, des fois, on a l'interface graphique qui n'est pas forcément la plus jolie, mais souvent, les outils derrière, le fond est vraiment solide. Donc voilà, c'est vraiment ce qui m'a séduit. Et puis, je dois quand même reconnaître que ça a quand même changé ma vie, au moins professionnelle, parce que ça me permet de vivre au jour le jour avec un travail assez intéressant et puis relativement bien payé, on va dire, c'est une passion, et voilà, c'est pour ça que il y a parfois des choix technologiques qu'on fait ou des directions qui peuvent quand même avoir un impact majeur sur notre carrière. Et voilà, c'est peut-être pour les plus jeunes, c'est intéressant parfois d'aller voir, parce qu'à l'époque, c'était quand même un petit peu, c'était pas mainstream, quoi, c'était un peu atypique. Et bon, par chance, c'est devenu peut-être un peu plus la norme et ça a permis d'évoluer dans ce monde-là. Voilà. Christophe?
Ouais, c'est à moi. Alors, moi, je suis un peu comme Nicolas. J'ai découvert Linux un peu dans cette époque-là. On a à peu près le même âge, je pense, avec Nicolas. J'ai commencé aussi au collège, lycée, je sais plus exactement. Je crois que c'était vers la fin du collège. C'était une Slackware aussi. Je m'en rappelle très bien parce que j'avais mon monceau de... Je vous montre, hein, si vous êtes sur YouTube, vous avez mon monceau de pile, ma pile de disquettes, comme ça, je les rentre. Puis je crois que c'est la 30e, secteur défectueux. Bon, ok. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les disquettes, quand on a un secteur défectueux, l'information ne peut pas être lue. Mais Linux me proposait, enfin l'installation de Linux me proposait, voulez-vous sauter le secteur défectueux? Je fais, bah ouais, allez, vas-y. Je continue, puis trois disquettes plus tard, secteur défectueux, sauf que là, impossible de continuer, donc du coup, j'ai jeté l'éponge. Ma Slackware, bah, je l'ai jeté à la poubelle. Hein. Et puis, c'est un peu plus tard, avec pareil, des magazines, et cette fois-ci, avec un CD que j'ai retenté le truc. Et là, j'ai commencé à jouer avec un petit peu. Alors, je jouais déjà beaucoup avec le DOS, donc le DOS, c'est la ligne de commande sous Windows. À l'époque, c'était Windows 3, je crois, un truc comme ça. Et après, c'est vraiment quand j'ai commencé à faire mon BTS, puisque dans mon BTS, on avait des terminaux qui étaient connectés à des stations Sun, donc Unix, où du coup, j'ai béni en fait le fait d'avoir un Linux chez moi, et je suis intégralement passé sous Linux pratiquement à ce moment-là. J'avais 18 ans, je pense. Donc c'était il y a longtemps. Finalement, Unix et Linux se ressemblent beaucoup, fait que j'ai continué énormément là-dedans, et à chaque fois qu'on me foutait un Windows dans les mains, j'étais là, vous êtes obligé, on est sûr, là, vous voulez pas qu'on prenne Linux plutôt? Et donc voilà, et maintenant que je suis indépendant et mon propre patron, il n'y a plus de Windows, et plus personne travaille sous Windows chez nous.
J'ajouterais aussi quelque chose, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore Linux, j'utilise tous les jours, professionnellement, personnellement, depuis des années, etc. Mais on arrive quand même dans une situation de monopole avec Linux, pour moi, et je pense que les monopoles, c'est jamais bon. On a de plus en plus d'outils, ben on va parler des conteneurs, hein, mais voilà, les conteneurs, systemd, EPPF, XDP, etc., qui ne fonctionnent que sur Linux. Et des fois, je me demande, est-ce que c'est vraiment bien cette situation de monopole? Est-ce qu'il n'y a pas des risques, notamment sur la gouvernance de Linux? On ne sait pas, hein, dans 5 ans, 10 ans, est-ce que ça ne va pas être Google ou Red Hat ou Amazon qui prendrait le contrôle de la distribution? Enfin, je ne sais pas, je dis des choses comme ça, mais des fois, je me demande, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi encourager des alternatives? Si on le peut, parce que c'est très compliqué de se mettre de côté de l'écosystème, mais c'est des fois des choses que je me dis, du moins. Je sais pas si quelqu'un veut réagir.
Non, je pense que, par exemple, sur les aspects sécurité, je pense que c'est jamais bon d'avoir un seul et unique système. On a déjà évoqué. C'est d'ailleurs ce qui se passe pas mal sur Windows. Quand il y a un problème, bah, voilà, tous les systèmes Windows sont par terre. Donc, avoir de la diversité un petit peu dans les operating systems, je pense que c'est plutôt bien. Il y a quand même les alternatives côté BSD, mais c'est vrai qu'elles sont un petit peu plus confidentielles. Et c'est un peu dommage. Ouais, je vois que Nicolas hoche la tête. Du coup, je vais lui laisser la main.
Ouais, bah en fait, c'était à peu près ce que j'allais dire. Alors, il y a plusieurs parties dans la réponse. La première, c'est c'est pas GNU Linux, parce que Linux, c'est juste le noyau. Et le noyau est relativement indépendant d'une société. Et Linus Torvald a toujours gardé la main là-dessus et il fait en sorte que ça soit pas lié à une société plus qu'à une autre. Après, il y a tout l'écosystème GNU qui est totalement open source, et ça a jamais trop changé, il n'y a pas de société derrière. Et toutes les distributions, maintenant on a deux distributions majeures, c'est tout ce qui est Red Hat-like, et après on a les Debian-like et Ubuntu, et il y en a énormément qui gravitent autour, puis je vais pas toutes les nommer parce qu'on n'a pas la soirée, mais on a énormément de choix, et dans une diversité où on a une galette qu'on met dans le CD, on fait next, et puis ma grand-mère pourrait presque l'installer, jusqu'à un système où on peut tout recompiler soi-même. Je pense que la Linux from scratch existe toujours. Et la deuxième partie, c'est je trouve que ces dernières années, donc effectivement, René parle de BSD, donc moi j'ai une appliance BSD pour remplacer ma box chez moi, Et il y en a qui peuvent se faire des NAS avec des BSD, c'est très très performant. Les FreeBSD est très éprouvé, la stack réseau est vraiment super solide. Les OpenBSD sont réputés pour leur sécurité, NetBSD pour le fait que ça puisse fonctionner un petit peu partout. Et après, il y a aussi plein d'autres petits systèmes d'exploitation plus ou moins exotiques, plus ou moins open source, qui permettent de faire de l'embarqué, qui permettent de faire d'autres trucs. Et je trouve qu'au contraire, on arrive à avoir un écosystème hyper varié, contrairement à ce qu'on avait à l'époque, où on avait une hégémonie de Microsoft sur la partie desktop, PME, PMI, et du Sun, Bull, et ainsi de suite, sur des grosses entreprises. Maintenant, on arrive à avoir des systèmes où chaque entreprise, chaque particulier peut choisir un petit peu plus facilement ce qu'il veut.
Ouais, du coup, je vais prendre la parole. Alors, en effet, aujourd'hui, Linux est en monopole, parce qu'on pourrait le dire comme ça, que ça, on pourrait dire, mais non, en fait, c'est Windows. Si, si, Linux fait tourner Internet. Linux est le système d'exploitation le plus représenté au monde, a priori. Sauf que, en fait, moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, avant que Linux arrive, on n'avait que des systèmes d'exploitation propriétaires, tous. Ils étaient propriétaires. On avait les Unix, donc BSD, pas BSD n'existait pas encore, mais les Unix type Sun, AX, etc. Et on avait Windows, et je crois qu'on n'avait pas encore, si on avait des Macintosh. Et puis Linux est arrivé. Linux a changé le paradigme. Il est arrivé avec la licence libre, GNU Linux, et donc ça a complètement changé les choses. Et avec l'avènement d'Internet, les systèmes d'exploitation sont venus en fait Linux. On a BSD qui est finalement un dérivé d'Unix libre. Ça reste des cousins, mais c'est pas compatible complètement. Et donc aujourd'hui, pour moi, ça me dérange pas du tout que Linux, de manière générale, plutôt les Linux, soient finalement répandus, parce que ce sont pratiquement tous des systèmes libres, et on peut encore choisir le système qu'on veut, que ce soit un Debian, ou un Red Hat-like. On a plus ou moins de liberté avec certains. Et l'autre truc, pour moi, c'est que finalement, l'autre alternative, c'est les systèmes d'exploitation propriétaires, parce qu'on en vient toujours là. Hein. Linux, BSD, ils sont libres, mais les autres, ils sont propriétaires. Donc, est-ce qu'on veut une compatibilité avec des systèmes propriétaires qui, de toute façon, ne sont pas ouverts finalement à ça? Ou est-ce qu'on veut des systèmes libres avec finalement le seul truc, comme l'a dit, je crois que c'est Nicolas ou René, je ne sais plus, le seul truc finalement qui est commun à toutes les distributions Linux, c'est le noyau. Après, tout l'écosystème, il peut changer, etc. Il y a des outils qui sont portés, mais finalement, le noyau, c'est le vrai cœur de tous les Linux, et c'est le seul truc finalement qui change pas. Et pour moi, c'est pas un problème. Parce qu'on a plein de distributions, des libres, des sous-licences. Donc ça, pour moi, ça pose pas de problème. Et c'est pour ça aussi que Linux est aussi puissant aujourd'hui. C'est parce qu'il y a plein de distributions et qu'il reste encore libre. Désolé pour le long monologue. Eh bien, je vous propose de clôturer cette partie Linux, sauf si vous voulez qu'on en parle encore, parce qu'on pourrait en parler longtemps.
C'est ça, ça pourrait traîner très très longtemps, je pense.
En tout cas, ouais. Si vous ne connaissez pas Linux, essayez-le quand même. Mais je pense que si vous écoutez ce podcast, vous avez touché au moins une fois de votre vie à Linux.
Il y a assez peu de chances que nos auditeurs ne connaissent pas.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Je vous l'avais promis au début de l'épisode, on va parler des failles de sécurité de Microsoft Azure, n'est-ce pas Mathieu ?
En effet, je vais vous parler un peu de ça parce que Azure a eu quelques déboires récemment. Alors en août, on a une première faille de sécurité qui a été découverte dans CosmosDB, donc c'est la solution de base de données NoSQL d'Azure. Et cette faille permettait l'accès, un accès complet finalement à la base de données de l'ensemble des clients. Et le bug semble exister depuis longtemps parce qu'il était lié à l'ajout d'une fonctionnalité autour de Jupyter Notebook qui a été ajoutée en 2019. Et ça n'a pas l'air d'avoir été exploité d'après ce que disait Microsoft. Du moins, j'ai pas vu de cas, personne ne parle de cas d'exploitation de la faille, mais Microsoft a quand même désactivé la fonctionnalité problématique et a demandé à ses clients de faire une rotation de leurs clés. Et pas de chance, une semaine après, rebelote, une nouvelle faille, mais ce coup-ci dans l'hébergement, le service d'hébergement de conteneurs d'Azure, où là, c'était possible de s'échapper de son conteneur, donc de faire de l'escalation de privilèges, et de là aussi aller voir ce que fait le voisin. Et ça, c'était à cause d'une ancienne version de Runc, qui est le composant qui gère les conteneurs sur les machines. C'était une ancienne version qui était déployée, là où une version plus récente aurait corrigé ce genre de problème. Et jamais 203, nouvelle faille hier, qui celle-là est pour moi quand même assez inexcusable. Il semblerait que Microsoft déploie sur les machines virtuelles Linux de ses clients, sans les prévenir, un agent appelé OMI, donc Open Management Infrastructure. Cet agent n'est pas documenté chez Azure, c'est-à-dire il n'y a aucune trace, il n'y a aucune documentation pour les clients sur cet agent. Il est vraiment déployé de manière totalement, on va dire, obscure par Microsoft. Et ce logiciel tourne en route, expose une socket Unix et un serveur HTTP. Et c'est cet agent, enfin ce logiciel, qui servirait à intégrer les machines virtuelles de Microsoft avec d'autres outils de la plateforme cloud finalement. Et le plus hallucinant, c'est finalement que quelqu'un peut prendre le contrôle de la machine en utilisant cet agent, tout simplement en faisant une requête à l'agent sans passer le header d'authentification attendu par l'outil. C'est-à-dire que voilà, l'authentification se fait par header HTTP, et là il suffit de ne pas passer d'header et on passerait route. Les chercheurs en sécurité ayant découvert la faille l'ont d'ailleurs appelé « Oh my god ». Et selon eux, 65% des clients Azure seraient impactés sans le savoir. Et la chose intéressante également à savoir, c'est que Azure demande donc à leurs clients de mettre à jour cet agent qu'ils n'ont pas installé. Ce qui est assez, assez marrant. Et les chercheurs précisent d'ailleurs que d'autres cloud providers peuvent installer ce genre d'agent. Moi, j'en ai déjà vu sur certains clouds, ou quand on loue du matériel physique chez certains providers, on voit qu'il y a des agents qui tournent. Moi, je me suis personnellement toujours méfié de ça, parce que même en entreprise, moi je l'ai connu à l'époque dans des grands groupes, on a tous connu ça, peut-être des machines virtuelles qui arrivent et il y a 2 tonnes de crapware installées dessus, la machine est déjà à moitié détruite lorsqu'elle démarre, donc il faut faire vraiment attention à ces agents là parce qu'on voit que ça peut être des dangers. Et j'ajouterai une dernière chose, c'est que j'entends très très souvent dire on va chez les clouds américains car ils sont plus sécurisés, moi je prends soin de mes clients, blablabla. Et ben, ça montre aussi que les failles de sécurité, ça peut arriver chez tout le monde. Mais ça arrivera peut-être aussi chez des clouds européens, c'est pas le problème. Dans le cas du header manquant qui permet de passer route, là on est quand même sur un cas exceptionnel. Mais des failles, ça peut arriver au final chez tout le monde. Il faut arrêter de croire que c'est pas parce que c'est Microsoft ou Amazon qui fait les choses, c'est forcément mieux sécurisé que nos acteurs locaux. Et voilà pour moi, donc j'attends vos réactions sur tout ça.
Alors je pense que de la part de Microsoft, on peut s'attendre à ce qu'ils nous sortent assez régulièrement des failles. Dans le style faille assez marrante, ils auront une faille sur le spooler d'impression qu'ils ont énormément de mal à corriger. Et c'est encore un truc qui est installé par défaut sur toutes les machines. Alors là, ça concerne les Windows, mais Donc là, ça m'étonne pas totalement de la part de Microsoft. Et ils ont une particularité, c'est qu'ils sont à la fois éditeurs de logiciels et éditeurs de cloud, contrairement aux deux autres gros concurrents américains, Amazon et Google, qui ont, eux, des activités autres que du logiciel à la base. Et bah ouais, c'est super grave, mais je comprends toujours pas les gens qui font de l'Azure. Donc ceux qui sont des grands fans qui viennent m'expliquer sur Twitter ou sur le forum pourquoi est-ce qu'ils sont amoureux de cette plateforme. Et toi, Christophe, t'en penses quoi? Je pense que t'adores.
J'adore. Non, mais voilà quoi. Bon, alors pour être un peu plus constructif, je pense que les gens vont chez Azure pour répondre un petit peu à ta question parce que c'est packagé d'une certaine manière, que c'est proche de Windows et que les gens qui font du Windows finalement trouvent un data center qui est probablement plus Windows compatible, on va dire. Après, honnêtement, je sais pas quoi en penser, j'irai pas chez eux, j'irai jamais chez eux, et la seule fois où j'ai eu un rapport avec eux, c'est une machine qui arrivait pas à démarrer et au bout de 7 jours elle avait pas démarré, donc bon. Azure, je suis pas prêt d'y toucher, et je suis pas prêt d'y toucher, d'autant plus parce que c'est Microsoft. Donc je préfère passer là et pas enfoncer Microsoft, parce que je pense qu'on peut pas tirer à boulet rouge sur les ambulances quand même.
Ouais, faut que je rétablisse un petit peu de partialité quand même. Donc moi, j'ai utilisé dans le cadre professionnel. Après, il faut pas non plus. Voilà, il y a quand même des services très très aboutis, c'est quand même pas rien. Je pense que c'est quand même un concurrent AWS. Clairement, donc voilà, là, ils ont une offre crédible. Après, ben forcément, comme on l'a dit, ils peuvent être exposés à des problèmes de sécurité comme tout le monde. C'est vrai que celles-là, elles sont un peu hallucinantes, mais bon, voilà, on va dire que ça arrive. Moi, ce qui me. Alors, j'ai pas trop suivi un petit peu ce qui se passe autour dans les communications. J'ai l'impression que c'est par contre quand même que si c'était arrivé sur un cloud provider français, on se serait blâmé, on aurait dit ouais c'est inadmissible et tout ça. J'ai l'impression qu'on est souvent beaucoup plus dur avec les clouds français et européens qu'avec les clouds américains. Là j'ai l'impression ben, y a quand même des failles graves chez Microsoft et c'est moins, enfin peut-être que comme je dis j'ai pas trop suivi ce qui se passe, mais j'ai pas l'impression que les gens s'en offusquent plus que ça. Et voilà, pour moi tout le monde est à la même ancienne, mais voilà, je pense que la prochaine fois qu'il arrive quelque chose chez un cloud européen, il faudra se rappeler que ben, ça arrive aussi chez nos copains américains, qui même s'ils sont très bons en sécurité, des fois font aussi des trucs pas géniaux. Voilà.
Je suis tout à fait d'accord.
En fait, je vais préciser un truc quand même. C'est bien de rappeler que personne n'est infaillible et que tout le monde peut faire des erreurs, y compris les grands. Et c'est justement parce qu'ils sont grands qu'ils peuvent faire des erreurs aussi, mais que du coup, ils vont impacter beaucoup plus de gens. Il y a ça aussi qu'il faut avoir en tête. Et il y a un autre truc, moi, qui me gêne chez Azure, c'est que c'est Microsoft derrière. Et outre le fait qu'ils aient des failles de sécurité, parce que ça fait longtemps qu'on sait que Windows, il y a des failles de sécu qui traînent régulièrement, mais outre les failles de sécurité, la politique et la stratégie de Microsoft, moi je m'en méfie quand même fortement, notamment sur l'espionnage industriel, je sais qu'ils sont très forts, et on a plein d'exemples. Je ne sais pas si sur Azure c'est le cas, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mathieu, tu voulais rajouter un dernier truc?
Je suis tout à fait d'accord avec René sur le fait que les gens sont sans pitié avec les acteurs locaux. C'est-à-dire qu'un acteur local qui va sortir un produit ou va manquer un peu une fonctionnalité ou bien il va avoir un bug quelque part ou un problème de sécurité, ça va être on sait rien faire machin et tout. Par contre, les Américains, ils peuvent être en roue libre complet et il y a aucun problème. Je veux dire là, c'est même parfois sur les produits. Hein, je veux dire c'est un peu ce que je ressens parfois. Et pour revenir sur Azure, ben c'est notre gouvernement qui adore Azure. Me semble d'ailleurs. Je crois que le S-Data Hub ou même tout ça en dit Covid, enfin, il y a beaucoup de services aujourd'hui qui sont chez eux, il me semble. Donc, même si ça va pour le S-Data Hub, je crois que ça va changer. Mais comme quoi, là aussi, l'aspect sécurité était très mis en avant par le gouvernement sur oui, on va chez Azure parce qu'ils savent faire. Eh ben, oui et non. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs.
Ouais, notre gouvernement, il est très pro-Microsoft, mais pas que pour le cloud, pour plein d'autres choses, et je pense que c'est historique, et ce serait bien que les choses changent et évoluent là-dedans. Alors, je vous propose qu'on passe au dernier petit sujet, puisque René nous a encore trouvé un petit outil, enfin, une pléthore d'outils, a priori, Donc je vais laisser la parole à René.
Oui, alors c'est pas forcément une nouvelle extrêmement quelque chose d'exceptionnel, mais en fait il y a souvent sur différents projets, on trouve ça pas mal sur GitHub, des projets qui ont awesome quelque chose dans leur titre. Donc là en l'occurrence c'est Awesome Self-Hosted. Et en fait, c'est souvent des collections de listes avec des liens vers différentes solutions. Et donc, cette liste-là, donc qui sera dans les notes du podcast, recense énormément d'outils que l'on. Donc, là, pour la plupart, j'imagine, sous licence libre ou open source. Et que l'on peut donc s'installer sur une VM, sur une infrastructure on-primage chez soi, enfin s'auto-héberger. Et voilà, donc il y a vraiment beaucoup, hein, ça couvre beaucoup de cas d'usage. Et c'est toujours intéressant de parcourir ce type de liste pour connaître des alternatives, je pense, et puis aussi pour voir qu'il y a vraiment beaucoup de choses et découvrir parfois des petites pépites, parce qu'il y a souvent des outils qui sont méconnus et pourtant parfois vraiment géniaux. Et je n'ai pas d'exemple en tête là tout de suite, mais je suis sûr que si on prend quelques minutes, on va en trouver. Et voilà, tout l'intérêt de ce lien, de ce type de lien, qui existe sur différents sujets. Ça existe pour les langages de programmation, en donnant par exemple quels sont les meilleurs, enfin pas les meilleurs, mais quelles sont les librairies qui existent dans tel et tel domaine. Ça existe pour plein de domaines. Donc pensez parfois à faire une petite recherche sur Google avec Awesome quelque chose, et on trouve des fois des choses très très intéressantes. Voilà, je vous laisse la main.
Je vais donc intervenir. J'ai trouvé le topic, parce que maintenant sur GitHub il y a des topics. Donc il y a le topic Awesome, je vous mettrai le lien en description. Et moi je vais vous parler d'un autre truc. C'est pour faire de la pub à un autre podcast qui s'appelle Chaos Monkey. Je sais pas si vous connaissez. Et ben en fait Stéphane qui gère Chaos Monkey a fait un dépôt GitHub qui s'appelle Impressionnant. Et donc dans Impressionnant vous trouverez tout un tas de ressources vidéo, audio et bloguesque de contenu francophone. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus.
Quand tu dis Chaos Monkey, c'est pas Electro Monkey plutôt?
Le podcast. Si, excuse-moi, c'est ouais, Electro Monkey.
C'est ce qui me semblait.
Je suis fatigué.
C'est parce qu'on a parlé de Microsoft que le mot chaos était venu à l'esprit.
C'est exactement ça. Et Nicolas.
Oui, je disais, en fait, j'avais parcouru un petit peu la liste rapidement, et notamment pendant que René était en train d'en parler, et cette liste, elle est très intéressante parce qu'elle regroupe par catégorie pour faire de l'auto-hébergement, mais ce qu'il y a de pas mal aussi, c'est qu'en face de chaque nom, il y a la description succincte, la licence et le langage dans lequel ça tourne, donc par exemple... pour des gestionnaires de bookmarks, que ça soit du PHP, ça sera plus facile à héberger à certains endroits, du Node.js, ça sera plus facile à gérer pour certains, du Python, plus facile à patcher pour d'autres, et ainsi de suite. Et elle est vraiment impressionnante parce que ça recense énormément de trucs, dont plein que je connaissais pas. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y en a beaucoup que j'utilise dedans, donc je vous conseille vraiment de regarder. Et si un jour vous cherchez des alternatives, vous pouvez aussi mettre alternative to votre produit, et on tombe souvent sur un site qui s'appelle alternative to, je sais plus l'URL, mais je pourrais vous la mettre dans les notes de l'épisode aussi. Et en fait, ça vous permet de trouver des alternatives avec des licences différentes, des projets qui sont peut-être plus maintenus que le vieux truc que vous aviez utilisé à l'époque. Et ouais, Internet c'est génial, on trouve plein de trucs, et depuis qu'on fait de l'open source à plus grande échelle, on trouve encore plus de trucs et c'est génial.
Du coup, l'URL, je vous le mets dans les descriptions de l'épisode, c'est alternativeto.net, et si vous tapez alternativeto.net et que vous cherchez YouTube, je pense que vous pourrez tomber, ah oui, exactement, sur Peertube, par exemple. Eh ben, je crois qu'on est arrivé à la fin de cet épisode, qui n'est finalement n'était pas si court que ça. J'aurais pensé qu'on ferait plus court. Mais bon. Si l'épisode t'a plu, cher auditeur, tu peux venir en parler avec nous sur le forum des Compagnons du DevOps. Le lien en description, il suffit de t'inscrire et tu pourras nous rejoindre, discuter avec nous. Et moi, je te dis à bientôt et je vais laisser le mot de la fin à mes chers invités. On va commencer par Nicolas. Quel est ton mot de la fin ?
Installer des Windows, ça vous permettra d'avoir des accès à distance configurés par défaut.
Excusez-moi. Mathieu, quel est ton mot de la fin ?
Dur à dire. Je ne sais pas trop mon mot de la fin. Si, peut-être sur Docker. Je pense que c'est important de manière plus générale, on va dire, de réfléchir aussi au financement de l'open source. Parce que finalement, Docker a libéré des tonnes de choses. Et on voit qu'aujourd'hui, ils sont peut-être trop libérés parce que ça leur a posé des problèmes dans le futur. Ils ont eu beaucoup de mal à se monétiser. C'est quelque chose à garder en tête. C'est qu'on voit ça, on voit que c'est payant. On se dit, oh, pourquoi ils nous font payer, etc. Mais en fait, ils ont livré aussi beaucoup de choses gratuitement. Et au bout d'un moment, il faut bien qu'ils gagnent leur vie également. Mais ce n'est pas que pour Docker. Là, je dis ça de manière plus générale parce que ce n'est pas les seuls dans ce cas.
Exactement. René, c'est toi qui as le mot de la fin de la fin.
Mot de la fin. Alors je vais faire un plus sur ce qu'a dit Mathieu. C'est important de contribuer sur des projets qu'on aime bien. La contribution financière est une contribution comme les autres et certainement la plus simple et la moins chronophage. Voilà. On pourra, je pense, en parler dans d'autres épisodes. Et sinon, j'espère que ce podcast vous a plu et on se donne rendez-vous pour le suivant.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt. La balado diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.